Le gang des histoires.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements dans des
pays.
À tous et aux autres, et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur PFM 99.9, mais aussi en podcast sur le site de Micro Rebelle. Dû aux conditions actuelles de confinement, nous ne pouvons pas faire une émission en bonne et due forme comme nous avons l'habitude de vous proposer. Avant de vous lancer un best-of des chroniques badass de Lily, depuis septembre, donc ça fait déjà un petit moment qu'on fait ces émissions-là. Donc le planning familial du Pas-de-Calais ne fait plus les permanences à l'heure locale au 45 rue François-Gauthier. Par contre, si vous avez des soucis, des problèmes, des questions sur votre sexualité, sur votre contraception ou tout autre isolement des personnes LGBT par exemple, les permanences sont étendues du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h. Donc toujours, vous pouvez contacter la personne qui sera de permanence au 03 21 28 43 25. Sinon sur le Facebook Planning Familial du Pas-de-Calais, mais aussi par mail à l'adresse contact@planningfamilial62.org. Autre petite précision, on sait que pendant les périodes de confinement, et on a déjà certaines données malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et pour ce fait, j'aimerais vous rappeler quelques numéros qui pourraient vous servir à vous ou aux personnes que vous connaissez dans ces situations-là. Vous avez par exemple le numéro 3919 qui est un appel, qui est un service mis en place par l'État pour recenser toutes les personnes qui seraient victimes de ces violences et donc pour faire agir les services concernés. Vous avez aussi le site internet arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez un chat disponible sur cette page pour pouvoir discuter en cas de violence, mais vous avez aussi d'autres numéros. Si vraiment c'est une urgence, vous pouvez appeler le 17. Vous avez aussi le 114 qui est à la base un service pour les personnes sourdes et malentendantes. Depuis le 1er avril, ce service a été élargi aux personnes victimes de violences conjugales intrafamiliales. Donc en fait, vous envoyez un SMS au 114 et ça va permettre de contacter les polices, gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS. Et sinon, si vous ne pouvez pas faire tout ça, vous avez les pharmacies qui ont mis en place un système qui s'appelle MASQUE19. C'est un code à donner à votre pharmacien ou à votre pharmacienne et qui permettra de les signaler et de mettre en place un signalement en fait que vous êtes victime ou qu'une personne dans votre entourage est victime de violences intrafamiliales ou conjugales. Sinon, comme je vous ai dit pour aujourd'hui, un petit best-of des chroniques badass depuis septembre. Et donc, je vous retrouve un peu plus tard dans l'émission.
La chronique badass. Ah,
get away from her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
Et donc voilà, cette nouvelle chronique aura pour objectif de mettre en valeur des parcours de femmes, de toutes les femmes possibles et inimaginables qu'on découvrirait, alors que ce soit dans l'histoire, dans la politique, dans la littérature, la musique, enfin tous les domaines. Et puis on attend vos retours, savoir s'il y avait des femmes que vous voulez mettre à l'honneur. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, inauguration de cette chronique. Et on a décidé de mettre en avant du coup, une très ancienne poétesse, philosophe, Christine de Pizan. Voilà, ça tranche un peu avec le côté hyper moderne de notre super jingle. Et Christine, oui, parce que je l'appelle par son petit nom, voilà, Christine. Elle est née en 1364. Eh ouais, elle est pas toute jeune. Bon, elle est quand même morte en 1000.
Elle est plus toute jeune.
Donc, elle est née à Venise et effectivement, elle est à cheval entre le 14e et le 15e siècle. Mais elle est considérée quand même comme une poétesse française. Du coup, après, elle a passé le plus clair de sa vie en France. Et pourquoi, du coup, on l'a mis en avant? Parce que, ben voilà, dans, quand on est à l'école, que ce soit le collège, le lycée, mais aussi à la fac, moi j'ai fait des études d'histoire, on m'a assez peu parlé et on nous parle assez peu d'autrices, de poétesses. Voilà, enfin c'est pas un truc nouveau, j'enfonce une porte ouverte, on le sait que, mais du coup le fait qu'on nous en parle peu, on a l'impression qu'elles n'ont pas existé, qu'elles n'existent pas. Du coup c'est bien ça, l'invisibilité de la participation des femmes à la société, à l'histoire, au monde politique, à voilà, l'avancée de notre humanité. Et ben la chronique, elle aura pour effet de lutter contre cette invisibilité, et donc on parlera de femmes qu'on aura dit badass parce qu'elles auront fait des trucs de fou, que ce soit écrire des poèmes du coup et lutter contre la misogynie au 14e siècle, mais aussi je sais pas, faire avoir élevé des tas d'enfants en bonne santé ou je ne sais quoi, enfin voilà, on va en mettre plein de choses là-dedans. Et donc Christine, et ben elle était donc philosophe et poétesse du 14e au 15e siècle, et elle était tellement badass que un de ses bouquins, donc La Cité des Dames, elle met en avant tout un tas de nanas qu'elle estime être des femmes qui ont participé voilà, à la fondation de notre civilisation. Donc c'est-à-dire que déjà elle était voilà, du 14e siècle, mais en plus elle parle de meufs d'avant elle et tout, donc cette Cité des Dames, elle mériterait qu'on se penche là-dessus, et on le fera, hein, effectivement. Et non seulement donc elle écrit ce bouquin-là, mais en plus elle le décore, hein. Vous savez qu'au Moyen-Âge, alors les livres ils étaient écrits, c'était pas les imprimeries de maintenant évidemment, hein, donc il y avait une écriture magnifique, mais aussi des enluminures, donc c'est-à-dire des dessins et des décorations autour des pages. Et une des enluminures que moi j'ai trouvé la plus géniale, c'était donc du coup une enluminure reprenant le Christine de Pizan qui est guidée par la raison, qui est couronnée, donc c'est une autre dame qui incarne la raison, et toutes les deux, truelle en main, en fait, pose les premières pierres d'une muraille qui doit protéger la Cité des Dames, hein, donc ce lieu qui doit protéger ce lieu de la misogynie ambiante. Bon, alors moi je trouve que ça claque grave au 14e siècle, se lancer là-dedans. Et je ne vais pas aller dans le détail de tout son parcours, mais on voit que, bon, certes, c'était évidemment une femme un peu de la haute, hein, parce que donc au 14e siècle, une femme qui sait lire et qui ensuite écrit, c'était pas une gueuse, hein, forcément, hein, c'est sûr. Mais grâce à un père qui, quand même, était quelqu'un qui a voulu qu'elle puisse recevoir cet enseignement. Du coup, il la marie, effectivement, elle lui choisit un mari, voilà, elle n'a pas trop le choix, on est quand même au 14e siècle, hein, on ne va pas non plus bousculer trop de trucs. Mais en même temps, elle est plutôt bien tombée, son mari est plutôt sympa, apparemment, et puis ils tissent ensemble un réseau, et donc elle est clairement impliquée dans ce réseau de relations sociales, littéraires, philosophes. Ce qui lui permet que quand il meurt, parce qu'il a quand même dû attendre qu'il meure pour elle prendre un peu la lumière, hein, des spotlights. En tout cas, quand il meurt, elle se retrouve chef de famille, elle ne se remarie pas, la scélérate.
Ouh là là.
Et elle n'entre pas au couvent. Donc, c'était voilà, preuve de luxure et un truc horrible. Et non, elle devient chef de famille. Elle a trois enfants à charge, sa mère et une nièce. Tu vois, voilà, fallait pas trop. Voilà, non seulement trois enfants, c'est déjà quelque chose, mais en plus la mère, la nièce et autres. Et elle continue quand même et elle arrive à se creuser un trou dans les philosophes et les écrivains de l'époque. Et elle est quand même soutenue, ce qui peut aussi aller à l'encontre d'une idée reçue. C'est-à-dire que genre notre période, la moderne, contemporaine, serait hyper progressiste par rapport à des temps obscurs. Et ben, c'est peut-être quelque chose à revoir et se dire, tiens, comment on nous a transmis l'histoire? Comment on nous a appris les choses pour justement faire que le présent... soit transformée par une idée erronée qu'on aurait dû passer, puisque en fait ces livres, c'est-à-dire si elle a pu en écrire, c'est-à-dire s'ils ont pu être publiés, il faut imaginer le temps que ça pouvait prendre d'écrire un bouquin et de le copier de cette manière-là, c'est parce qu'il y avait des commandes. Et donc si une femme qui écrit n'est pas commandée, je veux dire, elle n'a pas de bouquin, quoi. Elle en écrit un, elle le garde pour soi parce qu'elle a un peu de thune, éventuellement pour sa mère, tout ça, mais enfin bon, comme en plus elle l'a à charge, donc à mon avis elle lisait le même, hein. Donc bon, elle en aurait écrit qu'un. Là, il y a quand même des princes et des rois qui les lui commandent. Et donc, c'était peut-être pas complètement aussi impossible qu'une femme puisse écrire et être lue et avoir une renommée et débattre d'idées philosophiques, parce que c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. C'est peut-être moins impossible que ce qu'on a bien voulu nous transmettre dans nos leçons d'histoire. C'est peut-être plutôt les historiens qui ont suivi, qui ont invisibilisé ces expériences-là. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur Christine de Pizan? Il y aurait des tas de choses à ajouter sur Christine de Pizan, mais je suppose qu'on a un temps réduit. Est-ce qu'on me parle dans l'oreillette?
Il nous reste 3-4
minutes. 3-4
minutes. 3-4 minutes, est-ce que tu auras un petit truc supplémentaire
eh ben
à nous
oui.
dire
moi, j'aurais bien aimé
sur la petite cri-cri.
Un poème.
Et alors,
il y a un petit passage.
D'ailleurs, il y a un extrait qui a l'air sympa. Alors, je ne sais pas si on parle du même, hein, mais parce que évidemment, voilà, on relie l'histoire à l'aune de nos représentations, et donc il y en a qui se sont lancés sur essayer de se dire, oh, ouais, Christine, elle était hyper féministe et tout. Puis il y en a d'autres qui ont dit, ah non, féministe, nana. Bon, c'est pas le sujet. On est au XIVe siècle. Hein, elle a fait des tas de choses et tout, mais quand même. Il y a une de ces citations qui est notable et qui disait que si la coutume était de mettre les petites filles à l'école et que communément on les fit apprendre les sciences comme on le fait aux fils, qu'elles apprendraient aussi parfaitement et entendraient les subtilités de tous les arts et les sciences comme ils le font. Voilà, donc elle se dit bien que tout est question d'éducation. Et que c'est quelque chose qui peut résonner, qui résonnait à l'époque, qui peut encore résonner maintenant. Quand on voit la tronche, excusez-moi du vocabulaire, hein, mais de certaines filières dans des lycées professionnels ou autres, et qu'on continue de croire que les hommes ne seraient pas capables de faire telle ou telle chose qui sont réputées plus féminines, ou les femmes ne seraient pas capables de faire tel ou tel cursus réputé masculin. Bon, et ben voilà, dès le 14e, il y en a qui avaient compris que si on était éduqué et qu'on apprenait les mêmes choses, et ben selon nos capacités individuelles, nos capacités propres, on pourrait remplir voilà, et faire des tas de choses et gravir des tas de montagnes et construire des tas de murs contre la misogynie ambiante. Enfin, non, ça, c'est peut-être une utopie, excusez-moi.
La chronique badass.
Dodge this.
C'est non, toujours rapide.
Hein, ce jingle. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Marin? C'est la première fois que tu l'entendais.
C'est pas mal.
Hein. Ouais, on a quelques petites références. Hein, mm-hmm. Donc, beignet de tomates vertes, Alien,
Les Indestructibles,
Matrix. Voilà. Donc voilà, on l'adore, hein, ce jingle. D'ailleurs, on remercie Luc de Micro Rebelle, hein, pour la technique et la création de ce jingle. Et aujourd'hui, là, dans la chronique badass. On le rappelle, hein, cette chronique, elle a pour principe de mettre en avant le parcours, la vie d'une femme que nous, on va dire, badass, donc qui a été invisibilisée dans l'histoire, les sciences, la littérature, la politique. Bon, il y aura probablement d'autres champs, hein, qu'on va explorer. Hein.
Et là, tu vas remonter très très loin.
Voilà. Donc, des femmes qui ont existé, qui ont fait des trucs de ouf, hein, mais qui ont contribué à la construction de ce vaste monde, de cette humanité, mais qui, on se demande, hein, par un regard un peu, alors, au mieux naïf ou ignorant, mais au pire patriarcal et carrément misogyne, elles ont été effacées des tablettes et de la transmission au plus grand nombre. Donc, c'est-à-dire qu'elles existent, ces meufs-là, mais on oublie de nous en parler, ou on nous en parle de manière un peu erronée. Hein. Donc ça, c'est le principe de la chronique. Et aujourd'hui, au menu, donc, on parlera de la première des premières. On remonte loin. Hein. Donc, alors attention, hein, dans première, j'entends dans un contexte christiano-centré. Et puis alors, pas christiano-centré, j'entends centré dans un contexte chrétien, hein, pas de Cristiano, c'est de Jésus-Christ, hein, pas de Cristiano Ronaldo. Et ben, on est en terre mais de foot, oui. Je sentais qu'il y en avait plein qui étaient tout. Alors,
voilà, c'est trop bien.
Mais non, excusez-moi. On est bien donc dans un contexte de des chrétiens. Voilà, on va sur le contexte chrétien. Et puis après, un peu plus tard, judéo-chrétien, hein, parce que du coup, on va parler d'une meuf qui concerne aussi bien les juifs que les chrétiens, vous allez voir. Donc la première des premières, donc. Bah, vous allez me dire, on va arrêter le suspense, on pourrait aller parler de Ève. Ah, Ève, qui aurait marqué du sceau de la tentation notre destin à toutes. Hein, la subversive Ève, qui, par un heureux esprit de découverte et d'ouverture au monde, a refusé d'obéir à Dieu le Père. Fallait quand même le faire, badass quand même, hein, le truc. Et elle a secoué un peu ce benet là d'Adam en lui faisant croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que quand même, c'était l'arbre de la connaissance, c'était pas juste une pomme. On nous dit une pomme. Non, l'arbre de la connaissance. Heureusement qu'elle lui a fait croquer dans cette pomme. Enfin, dans ce fruit de la connaissance. Vous m'avez suivi, hein. Donc au moins, ça l'a obligé à pas rester l'idiot utile, hein, et obéissant dans lequel l'autorité paternelle le voulait. Elle était quand même maligne et hyper ingénieuse, parce que du coup, c'est pas elle qui bouffe la pomme, elle le fait bouffer à l'autre, hein, parce que comme ça, hein, d'une, ça le rend moins con, hein, quand même. Et de deux, elle plonge pas toute seule, quand même. Hein. On partait bien, nous, les femmes, on partait super bien, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire, hein, depuis 2000 ans. Et ben donc, on pourrait donc faire toute la chronique sur Ève, sauf que vous me direz, bah, pourquoi parler d'invisibilité pour une femme dont la réputation qu'on lui a collée nous pourrit encore la vie, là, nous, des millions, toutes ces millions de descendantes. Elle est quand même pas trop invisible, Ève, on est d'accord, hein?
Ouais.
Eh ben, c'est parce que la chronique badass sur la première des premières ne va pas se faire sur Ève. Et ben non, parce que contrairement à la transmission religieuse et populaire et patriarcale, Ève n'était pas la première.
Ah
mais
bon,
elle a contribué malgré elle à invisibiliser la première femme d'Adam, Lilith. Et ouais, celle-là, nettement moins connue. Hein. Parce qu'au pays du divorce interdit, de la sexualité hors mariage et procréation interdite, eh ben Dieu le Père, il s'est pas gêné quand même. Il s'est débarrassé de cette première femme. Et le clergé, les autres chefs religieux des millénaires et des siècles suivants, ils en ont fait de même en épurant un peu les textes. Hein. Parce qu'il faut le savoir, la religion ou les règles des religions chrétiennes et juives, elles sont pas écrites par Dieu lui-même, mais elles sont choisies par une multitude de mecs là, dans les siècles suivants, qui se réunissent et qui étudient les textes et puis qui en éliminent quand ça leur plaît pas trop, hein, lors de conciles, on appelle ça des conciles. Et là, les gars, donc, ils se rencontrent entre eux, ils décident entre eux de quel texte ils vont garder, et puis, bizarrement, la majorité des textes où des femmes ont un rôle majeur, eh ben, ils disparaissent. C'est quand même un hasard, non ? Hasard ou complot patriarcal ? Je vois ton air là, Marin. Je vous le demande. Bon. En tout cas, ça, l'organisation des religions, c'est une autre histoire. Mais alors, vous allez me demander, mais pourquoi ? Pourquoi Lilith se fait virer ?
Mais voilà. Pourquoi ?
Voilà, merci. Pourquoi elle se fait virer, Lilith ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de pire que Ève, franchement, qui a condamné l'humanité à la perte du paradis ? Hein ? Voilà. Eh bien, Lilith, la première version de la femme, qui a été créée du même matériel, du même matériau d'Adam, sur la base de réciprocité, hein, d'égalité. Parce qu'il faut se rappeler qu'Adam est tiré du limon de la terre, comme façonné dans l'argile et conçu pour être à la fois mâle et femelle dans une conception un peu asexuelle et androgyne de l'humain. J'en entends déjà qui sont en train de gueuler. Et qui n'aurait pas eu besoin de sexualité. Et puis, bon, Dieu, quand même, il se rend compte que la solitude, c'est pas terrible, hein, pour l'homme. Donc, il crée un deuxième individu, mais toujours tiré du même limon de la terre, Lilith. Voilà, sur un rapport de réciprocité. Mais là, ouais, non, rien ne se passe comme prévu, puisque la Lilith, c'est donc un peu Adam, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pareille. Donc, elle est comme Adam. Et donc, bah, elle a décidé de faire un peu ce qu'elle veut, voilà, un peu comme Adam. Pas très docile, la meuf, direct. Et surtout, elle ne voit pas du tout pourquoi elle se soumettrait à Adam en quoi que ce soit. Normal, elle est légale. Et notamment pour ce qui est du sexe. Et oui, parce que l'arrivée de Lilith, donc cesse hein, cette idée d'asexualité dans l'humanité, il y a une question de sexe en réciprocité. Mais là, la Lilith, elle en a ras-le-bol, ras-la-casquette, et je vais même oser un ras-la-nénette du missionnaire et du peu de fantaisie d'Adam. Elle voudrait le chevaucher. Elle veut lui faire l'amour dessus. Et ouais, c'est son kiff, hein, on fait ce qu'on veut et tout. Elle, c'est son kiff. Et là, Adam, voilà, il se braque, il se plaint, gna gna gna, tu avait l'air pénible, hein, le Adam, il faut quand même bien le reconnaître. et là, Dieu le Père. Donc, alors, ils se fassent. Non, tous les deux, d'abord, ils se fâchent, ils se prennent la tête et tout. Et là, elle se casse. Hein, là, elle se dit, ouais, c'est bon, il a saoulé l'autre. Et elle rencontre un autre bonhomme. Eh ben ouais, plus fun le mec. Et là, là, Dieu le Père, ça lui plaît pas des masses, il faut bien l'avouer. Il se fâche, il la poursuit et lui ordonne de revenir au paradis et de se soumettre à Adam, parce qu'il s'est quand même pas fait chier à faire tout ça pour rien, quand même, hein, le gars. On comprend un petit peu. Et ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Quand son créateur lui tombe dessus et la menace, elle rentre dans le rang, hein? Elle retourne se la couler douce, à rien foutre que cueillir des fruits au paradis? Eh ben non, ben non. La meuf, elle refuse et elle reste là où elle est, à s'éclater. Vlan. Paf, alors là, le Dieu le Père, là, il s'en remet pas. Et il lui colle une malédiction de derrière les fagots. Hein. Bim, Lilith, elle est vouée à la base à être fertile, à engendrer l'humanité. Et là, elle se retrouve à voir mourir ses enfants chaque jour. Et dans certains textes même, hein, plus précisément, à voir mourir 100 de ses fils chaque jour. Et bah, quand bien même, elle choisit la liberté. Et inspirante, non, la Lilith. Hein, Lilith, ouais, qu'on retrouve dans la tradition juive, puisque dans la tradition chrétienne, on a bien vu, on l'a hop, vite effacé des tablettes. Hein. Et alors là, de là, de cette malédiction qu'elle subit, hein, découlent donc tous les mythes populaires sur Lilith, la démone, puisqu'elle est beaucoup plus connue comme démone, plutôt que première femme de l'humanité. Hein. Et donc, bon, parce qu'évidemment, il faut bien imaginer, hein, qu'une meuf qui préfère la liberté à la maternité et les gars, donc les gars qui ont suivi l'histoire, eux, ils ont eu du mal à encaisser, hein, faut quand même imaginer. Du coup, la figure de Lilith se transforme et se retrouve dans le folklore populaire sous différentes formes, plus obscures que la première femme de l'humanité, hein, plutôt obscure. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Florian?
Oui,
sur le côté démon là, de Lilith.
Ben, en fait, on retrouve même des textes qui sont bien antérieurs à juste 2000 ans, où en fait il y avait déjà des... Voilà, si on remonte dans l'histoire, il y avait déjà d'autres femmes avec des noms qui se rapprochent. On avait... On en a d'autres. Lille, il y a une qui me revient là en tête, c'était Lille. Et au début, c'était des forces plutôt naturelles qui étaient autour des tempêtes, des vents, des ouragans, etc. Et de ces forces qui étaient juste ben voilà, des phénomènes naturels, on en a transformé en des démons. Mais par contre, l'histoire que tu donnes où ce conte démoniaque, là, elle est reprise en nombre par différentes croyances. Et c'était une envoyée même pas dans un truc, c'est la terre-mère qui l'envoie pour récupérer des semences et créer plein de petits démons qui allaient parcourir la terre. Donc oui, il y a ce côté noir et on retrouve même Lilith pour celles et ceux qui s'y connaissent en astrologie parce que c'est l'autre nom de la lune noire. Et la lune noire, c'est l'opposé donc de la lune quand on fait les fameuses cartes d'astrologie et qui au début n'était pas très au niveau des interprétations, qui était tout ce qu'on pouvait perdre, tout ce qu'on avait peur, etc. Donc ça a vraiment un côté négatif dans l'histoire, dans toutes les histoires qu'on peut retrouver.
Et puis c'est vrai que le type qu'elle va rejoindre, qui est plus fun que Adam, est un vu comme un espèce de suppôt de Satan, effectivement.
Tawanda. La chronique badass.
Dodge this.
Alors Lily, ouais, où nous amènes-tu aujourd'hui? La dernière fois, on était parti très très loin,
très, très
en
loin.
Arrière dans le temps.
Ouais, voilà, dans les racines de la mythologie judéo-chrétienne. Et ben aujourd'hui, on va aussi loin, alors un peu moins loin dans le temps, mais loin géographiquement. Aujourd'hui, dans la chronique badass, on change de terrain. On va voir du côté de l'Afrique, du continent africain, et plus particulièrement d'un coin de ce continent dont on nous parle bien peu ici en France. Hein, ouais. Bon, alors. C'est vrai, déjà qu'on nous parle quand même bien peu de l'histoire du continent africain, faut le dire, hein, bien peu de l'histoire des pays africains, ne serait-ce que d'un seul pays, hein, mais encore moins des 54 pays qui la composent, hein, l'Afrique. Parce que, non, ouais, bon, je vois, je vous ai perdu, vous dites, voilà, ça y est, elle fait une digression encore, mais allez, je fais un clin d'œil à celles et ceux, notamment instités, si, qui ont pu me demander, parce que je connaissais des personnes noires, donc de venir cuisiner un plat d'Afrique, hein, ouais, du pays Afrique, quoi. comme si tout se valait en Afrique, on mangeait partout pareil, on causait partout pareil, etc., etc. Donc, il faut quand même imaginer que du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur 30 415 000 km², il s'en passe des trucs différents hein, sur le continent.
Je veux bien te
disons
croire.
Que, voilà, hein, c'est un peu comme chez nous, quoi. Hein. Voilà, hein, on est tous différents du nord au sud, l'est à l'ouest de l'Europe, on n'est quand même pas tous pareils. Et bien, figurez-vous, pas de magie, c'est pareil en Afrique.
Wow. Ouais,
bref. Voilà, donc, on nous parle bien peu de l'histoire de ce presque 1 300 000 000 de personnes. Hein, 20% de la population mondiale,
c'est
quand
rien.
Même. Il y en a même qui essaieraient de nous faire croire que ces Africains et ces Africaines ne seraient pas entrés dans l'histoire, genre ils en ont pas quoi de l'histoire, hein, les gars, ouais, bizarre, hein, on se demande. Bon, ok, je continue. Bref, alors aujourd'hui on part en Angola.
C'est où que ça ?
Voilà, on connaît pas bien hein, en France, vu qu'on ne l'a pas colonisé ce pays-là.
Oh, eh mince. Ben non.
Du coup, inconnu au bataillon. Enfin, bon, bref, allez, j'y vais. Donc, on y va, et en plus, on va au 15e siècle, là, fin 15e, début 16e siècle en Angola. Voilà, truc...
Ça fait beaucoup de choses.
Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Donc, on se dit que, bah, il et elle, hein, vivaient presque peinards. Hein, ils faisaient des trucs qu'on faisait au 16e siècle, hein, quoi. Donc, ça s'appelait pas l'Angola, évidemment, hein, c'était différents royaumes. Donc, ils géraient leur patelin, ils organisaient leur royaume, disons, bah, un peu, comment je pourrais dire, comme chez nous. Comme ce qu'on devait faire fin 15e, début 16e, j'imagine. On se foutait aussi sur la tronche, hein, histoire de gagner du terrain sur le village voisin ou sur le comté d'à côté, etc. Bon, tranquille, quoi. Et ils avaient sur leur système de domination. Il faut bien s'organiser. Hein. Voilà, les humains, on ne se refait pas. Mmh. Donc, il y avait des rois et des reines et des moins rois, des moins reines et hein, tout le toutim, hein, voilà. Et puis, bon, ben, précisément, vers 1583, hein, c'est un peu difficile de préciser, enfin, 1583, c'est quand même un peu précis, mais bon, on n'est pas tout à fait sûr de la date, peut-être naît un petit bout, la fille du roi Ndongo Ngola Mbandi Kilwanji.
À tes souhaits.
Okay, ouais. Et la reine Kangela, qui aurait été abyssinienne, c'est-à-dire éthiopienne, donc assez loin de cette région qui est située en actuel Angola. Hein, ils voyaient déjà, hein, ils voyageaient déjà, les gars. Et enfin, en l'occurrence, les dames, plutôt. alors, le bout de chou, hein, elle, qui vient de naître, hein, je reviens à mes moutons, là, elle naît avec le cordon autour du cou. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Ndinga, parce que ça vient du Kunjinga, qui veut dire tordre. Et il y a tout un tas de croyances comme chez nous hein, autour, hein, les enfants qui sont nés coiffés, blablabla. Et là, on prédit qu'elle sera reine un jour et que comme tous les enfants nés avec le cordon autour du cou, elle sera fière et hautaine. Donc, c'est-à-dire qu'elle va réaliser des trucs, quoi, la meuf. Hein, déjà, on lui prédit déjà ça. Et ben, bim, il suffisait de ça pour que son père, du coup, fasse un effort et s'intéresse un peu à elle et l'associe à ses activités, lui transmette ses savoirs, donc l'éduque. Ta-ta-ta,
wow.
Magie. Et ouais. Il l'emmène à la chasse, dans ses réunions politiques, tout ça. Du coup, Ndinga, eh ben, elle acquiert tout un tas de compétences hein, et de l'ambition. Et ouais, l'ambition, pas de magie. L'éducation égale l'émancipation. Voilà. Bon, bref, allez, j'y viens. À la mort des parents, bon, il se passe quand même tout un tas de trucs entre sa naissance et la mort des parents, mais bon, voilà.
Le plus important, c'est après.
Voilà. Puis on vous mettra les sources hein, pour aller creuser un peu sur cette charmante dame. Donc, à la mort des parents, ben, c'est quand même son frère qui hérite. Hein. On est au XVIe siècle, faut quand même pas trop déconner. Hein, voilà. Mais bon, le gars, il a quand même bien cerné sa sœur et capté qu'elle était vachement plus maligne que lui. Hein. Et elle a bien capté qu'elle était bien plus intelligente que lui aussi. Donc ça a suffi pour déclencher une guerre, hein, voilà. Et le gars, pour se débarrasser de sa sœur, eh ben, il ira jusqu'à s'associer et presque filer les clés du royaume à qui ? Eh ben, aux Portugais qui débarquent là, tout blanc, ou presque, hein, ça dépend de où on se place, avec leur bâton qui crache du feu et tout, tu vois, le chacal, il lui fait ce coup-là, voilà. Pas de fraternité, pas de... Hein, voilà, non. Il va là...
C'est juste pour sa peau.
Voilà. Bon, mais comme il est con, il se fait rouler, évidemment, hein, puisque c'est quand même la spécialité des Européens qui débarquent un peu partout à cette époque-là et se foutent du monde et récupèrent tout, hein, quand même. Et donc, bien emmerdé, comme il rate un peu, il se fait rouler, bien emmerdé, il est obligé, le frérot, de rappeler la frangine et l'envoyer négocier avec les envahisseurs, hein. Ah oui, alors là, ouais, bon, alors pardon, je fais encore une petite aparté, parce que figurez-vous que contrairement à ce qu'on nous a laissé croire hein, dans nos charmantes écoles hein, républicaines, non, les autochtones africains de l'époque n'étaient pas des sauvages incapables de résister aux breloques européennes. Il y a bien eu résistance, négociation, négoce, puis trahison, affrontement, guerre, combat, effectivement. J'ai envie de dire un peu comme dans tous nos royaumes à nous. Hein. Et puis bon, bah, certes, perdu pour un temps, hein, ces combats et ces guerres, parfois bien longs, mais quand même, et le tout n'est pas arrivé dans un claquement de doigts. Non. Alors Nzinga, elle avait prévu le coup, elle a bien observé la situation. Et ça faisait un petit moment qu'elle s'était entourée de conseillers, conseillères, et même d'une esclave lusophone. Ouais, c'est comme ça qu'on dit pour ceux qui parlent le portugais. Et oui, ça veut aussi dire que Nzinga avait une esclave probablement blanche. Hein ? Ouais, ça donne un peu de perspective. Du coup, quand elle arrive pour négocier avec Juan Correra de Souza, le représentant des Portugais, le chef de guerre, quoi, hein, parce qu'on envoyait quand même des gens pour massacrer d'autres gens, l'art de rien, on le sait maintenant avec le recul. Hein. C'était pas juste une petite colonie de vacances, hein, cette colonisation.
C'est donc, pas juste aller planter le drapeau, quoi.
Ouais,
c'est...
voilà. Non, ils ont planté des tas de trucs. Hein. Mais bon, donc elle impose son autorité auprès de tous en arrivant dans un apparat de reine incroyable qu'elle a négocié avec son frère, qui a rien compris au stratagème, hein, lui. Bref, donc une suite de 200 personnes triées sur le volet pour impressionner l'adversaire, des bijoux, des tissus, des parfums là, qui jetaient en l'air, qui vaporisaient un peu comme ça, pour la précéder. Donc bref, des richesses à faire encore plus pâlir ces petits nordistes. Hein. Et quand elle entre dans la salle de négociation et qu'elle voit le chef portugais qui est assis sur un majestueux fauteuil, mais que pour elle, on lui a réservé une natte par terre, tiens, dont on parle de représentation. Hein.
Ouais.
Eh ben elle, la meuf, elle se démonte pas. Non. Elle se roule pas par terre non plus, hein, de rage. Non. Tac. Elle claque des doigts et elle intime à un membre de sa suite de se mettre à quatre pattes par terre et elle s'assoit dessus.
Bah,
elle
dis
se
donc.
Fait un siège. Alors, ouais, bon, vous me direz, c'est quand même moyen dans le genre égalitaire, hein, mais bon, alors attention, hein, pas d'anachronisme. On est au 16e, dans un royaume où la meuf, elle doit se battre contre un envahisseur sanguinaire et irréductible, mais aussi contre les hommes de sa communauté et surtout de sa famille, hein, ok ?
Ouais.
Bah, eh ben, quand bien même, elle réussit à déjouer les plans du frérot, tellement con qu'il préfère jeter en pâture son royaume aux colons plutôt que de laisser sa sœur régner et de déjouer les plans des Portugais. Pour la suite de l'histoire, elle comprendra tellement bien ces hommes blancs qui arrivent de partout qu'elle utilisera leurs guerres intestines comme ils ont utilisé celles des Africains. Elle s'alliera avec les Hollandais pour lutter contre les Portugais. Et jusqu'à sa mort à 80 ans, elle opposera une résistance farouche à l'invasion de son royaume, le Matamba. Et elle mourut paisiblement, malgré ses guerres et surtout les tentatives de coup d'état des sbires du patriarcat de sa propre communauté. Hein, la meuf, quand même sacrément badass. Et puis pour l'autre histoire également, en plus de son nom dont Nzinga Mbandi du Dongo et du Matamba, ces deux royaumes, elle est connue aussi sous le nom de Anne Nzinga ou Anna de Souza Nzinga Mbandi, car fine diplomate. Donc on voit qu'elle était déjà qualifiée même par ses contemporains, hein, même blanc, très très intelligente. Elle était donc une fine diplomate. Elle s'était convertie au christianisme avec pour parrain et marraine ses adversaires directs, hein, le Juan Correra et sa femme, puisqu'évidemment, à l'époque, on écoutait et ne massacrait pas de la même manière les âmes chrétiennes et les autres. Hein. Dites-moi, donc, tout compte fait, les temps changent peu, n'est-ce pas ?
Le gang des histoires.
Le gang. Bim.
Maintenant, une petite pause musicale avec Les Malheurs de Sophie, interprété par Léa Bernardo. On se retrouve juste après.
Allô Sophie, enfin ton répondeur. Dis, voilà, écoute, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu prouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h. Ciao.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille à Auchan, aux rayons surgelés. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux. Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Dama, avec son petit ciré. Il est vraiment ringard, il joue les Don Juan, dans sa super Volvo. Il est vraiment navrant, il n'écoute qu'à l'amour. Jean. cinéma de ce état. Rien n'a fait.
Rencontrer Sophie à la foire au fromage, elle est vraiment jolie, je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain, c'est un grand rigolo, je crois qu'il m'aime bien. Pareil que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi, je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi, je suis vraiment terrible. Je l'aurai. Car je lui plais, j'en suis sûr, elle va craquer.
Allô Sophie, dis, si tu as reçu mon message après 14h, ah ben écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore, ciao.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains? Ce type a tout gâché, y'a plus de rime en un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite où c'est un coup Bernard et de ses acolytes.
Il est bientôt 2h, mais elle ne viendra plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que j'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher.
Allô, Sophie, écoute, c'est Gaëtan. Écoute, il est 2h du matin, je suis fatigué, j'avais faim, j'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim, je viens de finir les fleurs. Écoute, ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous. Ciao.
Tawanda.
La chronique badass.
Get away from her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
On fait une incursion aujourd'hui dans le monde ouvrier.
Ouh là là.
Ouais. L'actualité sociale, hein. Bim, tac, raccord et tout. Hein. On est réactif hein, dans c'est le gang.
C'est magnifique.
Incroyable. Hein. Alors, le monde ouvrier, ben, me direz-vous, ça appelle plutôt hein, un imaginaire fait de casquettes vissées sur le crâne, col bleu, odeur de sueur bien virile et mains grasses pleines d'outils.
Ouh là là. Hein.
Donc bon, moyennement féminin hein, comme monde a priori. Hein.
Et pourtant, présenté comme ça, c'est sûr.
Ouais, pourtant. Contrairement à cette idée populaire que les femmes auraient commencé à travailler dans une ère tout à fait contemporaine, hein, genre dans les années 70.
Ouais.
Hein, voilà, bah oui, vous m'en direz tant. Hein, ouais, jusque-là, on se tournait les pouces à le baraque, comme on dit ici. Hein, voilà. Ou alors on se tripotait l'abricot entre voisines autour d'un café à attendre le retour des guerriers. Ok, j'arrête, ça va déraper.
Ouais.
Bon, bah donc du coup, hein, contrairement à cette idée populaire, hein, de une, les femmes ont en fait toujours travaillé. Eh ouais, je vous l'apprends peut-être. C'est juste qu'on a que tardivement été reconnues pour leur travail. C'est-à-dire qu'on a que tardivement reconnu leur travail. Hein. Et de deux, elles l'ont fait et pas que dans la domesticité ou au champ. Hein, dès le début des révolutions industrielles, le patronat repère que les femmes et les enfants sont une masse exploitable. oui, on rate rien. Hein. À titre d'exemple, hein, en 1866, les effectifs ouvriers sont constitués de 45% d'ouvrières, vous m'en direz tant. Eh ouais, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, je fais juste une petite aparté. En Andalousie, par exemple, hein, dans cette région de l'Europe qui nourrit l'Europe, on peut imaginer que 80% des ouvriers saisonniers sont des ouvrières. Hein, et je dirais même plus, dans les fraises, par exemple, vos bonnes fraises que vous allez acheter sans culpabilité dans votre supermarché à la con. En plein mois de décembre, par exemple, 100% des travailleurs saisonniers des fraises sont des travailleuse. Alors peut-être que voilà, hein, sur l'utilisation des termes, on pourrait passer à travailleur, travailleuse, saisonnière, ouvrière. Effectivement, ça aiderait à nous voir un petit peu. Hein.
Enfin, effectivement.
Bon, juste, moi, je dis rien. Bon, alors, je reviens quand même au 19e siècle. Hein. Donc oui, donc le patronat a repéré les femmes et les enfants. Il dit, tiens, Bella, on va pouvoir les exploiter aussi, après qu'elles aient été exploitées par leur bonhomme, hein, pour leur laisser le temps d'aller bosser pour nous. Bon, bah, alors, on les exploite d'abord chez elles, hein, en plus du travail domestique familiale. Je vous rappelle, on est au 19e, hein, par exemple, les lessives, ça se faisait à la main, enfin voilà, genre de truc, hein, en plus de tout le reste. Hein. On leur file du boulot de couturière à faire à la maison, par exemple, et puis ça empêche de crever de misère, hein, alors que leurs époux, eux, travaillent, mais on les paye tellement peu qu'effectivement, il fallait aussi quand même que les autres s'y mettent. Hein, merci le patronat. Mmh. Et puis, dès 1850, hein, c'est l'usine de 15 à 18 heures de travail par jour, hein, pour les meufs. Moi, je dis ça, je dis rien, on n'a pas travaillé beaucoup. La nuit aussi, hein, voire surtout. Comme ça gênait pas la réalisation des tâches domestiques, hein, ni l'élevage des futurs exploités. Je parle des enfants, si on n'est ouais. pas compris. Hein, parce qu'il faut en produire quand même, hein, des bah futurs forcément. Bras, travailleurs.
Sinon, comment,
et tout, hein.
comment le travail continue
donc, voilà, donc les meufs, la journée, elles produisent les futurs exploités, puis la nuit, elles travaillent aussi et tout. Hein, donc, bon, sinon, en dehors de ça, on n'a jamais rien fait. Donc tous les jours, donc évidemment, hein, à part le dimanche, parce que là il fallait quand même se laisser un peu de temps pour aller prier, hein, quand même. Et évidemment pas de congé, bah non. Hein, donc à l'heure où on entend des plaintes, voire que des plaintes, des reproches et des décrédibilisations de l'action syndicale, bon, je me suis dit que ça valait le coup de rappeler d'où viennent ces organisations collectives. Hein, de où on part, à quoi ça sert un syndicat, hein. Là ça se voit pas à la radio mais je fais un gros clin d'œil appuyé, hein. Bon alors vous me direz de quoi on parle dans cette chronique, hein. On va arrêter les digressions et bah tadadam, on parle d'une meuf trop badass quand même, ouvrière et syndicaliste et résistante et déportée et députée,
ça fait beaucoup de et
ça, voilà. On parle de Martha Desrumaux ou Marthe Desrumaux, donc née en 1897 à Comines, dans le Nord en plus. Hein. On
oh, bah,
est sur
donc.
Ouvrière et du Nord, bien de notre coin. Elle est sixième d'une famille de sept enfants, hein, d'une mère dont, bah, tout compte fait, on ne sait pas grand-chose, à part qu'elle était amputée d'une jambe, hein, on remercie les historiens, la précision, et d'un père pompier volontaire qui meurt quand Marthe a 9 ans. Alors, ouais, donc je fais encore une digression, vous m'excuserez, hein, vite fait, mais le truc avec Martha, c'est que son histoire, bah, elle est écrite évidemment par des mecs, hein, bah oui,
sinon,
en général,
c'est pas drôle.
Bah, non, c'est pas drôle, et par des militants, ouais, l'histoire, hein, la manière de raconter l'histoire, on s'en rend pas compte, mais elle est jamais neutre, et ouais, comme si, pas parce qu'on nous l'a appris à l'école que c'était vraiment neutre, hein. Et là, du coup, bon, bah, on a tout compte fait peu d'infos sur la condition féminine de Martha. On en a sur sa condition croisée d'ouvrière et de femme. On a son histoire, hein, de militante et tout, mais peu sur la femme qu'elle ouais. était. Et donc, on pense déjà à sa mère, hein, qui a eu 7 gosses sans tellement en avoir le choix, hein, ce qui a dû lui flinguer la santé. Hein, et du coup, c'est peut-être, je ne veux pas extrapoler, mais enfin, le coup de l'amputation, je me dis qu'il doit y avoir un lien. Et lui donner l'incapacité de nourrir ses gosses, hein, notamment à la mort du père, hein, quand lui, il clame, c'est ben bim, comment on fait ? Eh bien, Martha, à 9 ans, elle est envoyée, pour ne pas dire vendue sûrement, à des bourgeois de Lille comme domestique. Hein, voilà.
Mais on surtout est au... que tu m'avais dit qu'à l'époque, il y avait certaines lois.
Alors oui, j'y viens, tu vois. Hein, de cette condition de domestique, donc on est quand même au début du 20e, hein, parce qu'elle est née en 1897, donc 9 ans, moi je n'ai pas très bien compté, hein, mais 9 ans, on est quand même au début du 20e siècle. Et donc elle s'enfuit. Alors elle s'enfuit de ce travail de domestique chez les nobles. On dirait, tiens, pourtant elle devait être au chaud, elle devait avoir à bouffer et tout ça, tu vois, ça pouvait être une amélioration de sa condition. Mais
domestique non, ou esclave.
Voilà, et puis on est aussi à post-MeToo, post-balance ton porc, on commence à comprendre qu'il y a plein de fois où on n'a rien dit, les femmes, parce qu'on ne pouvait pas parler. Et donc, on peut quand même imaginer que oui, entre les mauvais traitements, l'exploitation, l'esclavage, ben, il devait peut-être aussi y avoir un léger problème d'exploitation ou de violence sexuelle derrière, hein, hein, pour que la tchotte, elle se barre comme ça, et elle débarque à l'usine, hein, aux alentours de 10 ans, youpi, elle se syndique à 13, hein, ouais. 10, 13, mais dites donc, comme tu le disais, hein, on ne nous a pas bassinés avec l'école, nous, hein, l'école publique, tout ça. Alors surtout d'abord avec la loi Fallou, hein, 1850, la loi Fallou, qui rendrait obligatoire l'école pour les garçons de toutes les communes de 500 habitants et pour les filles dans les communes de 800 habitants. Hein ? Ça donne une idée de la condition des ruraux, enfin surtout des rurales, hein, des gamines paysannes. Mmh. Hein ? Et puis le Jules Ferry, là, hein, 1881-1882, l'école publique laïque, parce que la loi Falloux, c'est surtout l'école religieuse hein, qui était là. Bim, 1881-82, l'école publique laïque pour tous les gamins et gamines de 7 à 13 ans. Ah ouais, donc l'histoire de Martha, elle nous montre bien quand même la limite de l'application des lois républicaines dans les milieux populaires. Hein. Concrètement, sans sécu, bah, il faut quand même que tout le monde aille au turbin. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. À l'heure où on demande à tout le monde de se démerder, faudrait bien se rappeler de où on part hein, quand même. Hein. Hmm
Effectivement.
Bon, bref. La Martha, là, à 15 ans, elle en a déjà bien chié, hein. On pardonnerait l'expression quand même. Elle voit bien qu'elle et ses copines, elles subissent une oppression bien spécifique, hein, même à côté de celle que vivent leurs poteaux, là, les ouvriers, hein, qui ramassent hein, aussi, mais elle aussi. Hein. À 20 ans, elle mène une grève pour qu'on ne retire pas de caution de logement sur leur salaire, par exemple, et elle l'obtient. Hein, on reconnaît bien là le patronat et son paternalisme. Hein, il les loge, hein, ses ouvriers. Hein, il est magnanime. Hein, mais il leur fait payer en plus. Il fait payer le logement en plus de mal les payer. Bon, l'autre, la meuf, elle se rebelle et elle gagne ce truc-là déjà. À 24 ans, elle devient membre du Parti communiste français. Et elle est de tous les combats antimilitaristes, antifascistes, anticolonialistes et tout. Hein, elle démarre. À 30 ans, hein, on mettra hein, des petits éléments pour aller aux sources, hein, pour avoir plus d'éléments. Hein, là, je suis obligée d'aller vite. Mais à 30 ans, elle est la première femme élue au comité central du Parti communiste. Ouais, la meuf. Parce qu'il ne faudrait pas croire, hein, les cocos, c'est pas parce qu'ils avaient une réelle et excellente idée du progrès humaniste, congés payés, sécurité sociale, protection des travailleurs, augmentation des salaires, taxation du capital, blablabla, qu'ils avaient réellement imaginé que leur mère, leur conjointe et leur fille et autres gonzesses de leur famille pouvaient être leurs égales. Et ouais, hein, quand on se bat contre l'oppression, il est difficile d'accepter d'être l'oppresseur de quelqu'un, même. Hein.
Effectivement.
Bon, et ben Martha, elle continue de taffer pour la cause. Hein. Elle est l'une des chevilles ouvrières de la stratégie du Front populaire. Hein. Vous vous rappelez, les congés payés et tout, là. Elle est la seule femme de la délégation ouvrière qui va négocier les accords de Matignon en 36. Elle crée l'Union des jeunes filles de France et prend la direction de l'Union du Nord. C'est un peu le pendant féminin des jeunesses communistes.
Ouais.
Là-dedans, elle y travaille l'émancipation et l'égalité entre les ouvrières et les ouvriers. Bon, alors évidemment, en 39-45, eh ben, elle ramasse encore. Hein, elle est menacée par la répression anticommuniste. Elle entre en clandestinité. Elle organise la résistance. Hein, voilà, je veux dire,
la totale.
Pour se planquer quand même. Hein. Bon, évidemment, elle est dénoncée, d'ailleurs, par un préfet. Hein,
dis donc.
Voilà, hein, on n'est pas surpris, je ne sais pas pourquoi. Elle est emprisonnée, puis déportée à Ravensbrück en 42. Ouais. Et elle est libérée en 45. Hein, ben la meuf, ouais, elle survit hein, à ça. On a dit badass, hein, pas pour rien. Bon, bah, et après, hein, avec le typhus qu'elle a chopé dans les camps de concentration, on pourrait croire qu'elle se repose. Hein, on se dit, allez, on va s'arrêter là un peu. Martha, vas-y, prends-en 5, quoi. C'est bien, tu l'as mérité. Eh ben non. Comme les cocos et les conservateurs là, face à l'héroïsme des femmes pendant la guerre, hein, alors entre dans la résistance, mais aussi tous les boulots qu'elles ont pris, en plus de ce qu'elles faisaient déjà pour remplacer les mecs, bon bah là, ils peuvent plus trop s'opposer au droit de vote des femmes. Ils ont réussi à le faire après 14-18, mais ouais. Là, voilà. Ouais, bon, parce que hein, ils sont jamais d'accord sur rien, hein, gauche, droite et tout, hein, les mecs. Mais alors, sur le dos des femmes, là, il n'y a pas de souci hein, pour s'organiser, bizarrement. Donc, le droit de vote est accordé aux femmes en 44 et elle est élue au conseil municipal de Lille, dès 45, il me semble. Et puis, elle devient aussi une des premières femmes élues députée à l'Assemblée constituante, parmi les 33 femmes qui constituaient les 586 députés. 33 femmes sur 586, Martha Desrumaux en faisait partie. Elle continue pour l'émancipation des femmes dans l'Union des femmes françaises qui est créée en 45. Et c'est une association qu'on connaît encore parce qu'elle deviendra Femmes Solidaires, qui est encore très active sur la question des femmes à l'heure actuelle. Et après ça, on vous l'a dit, hein, du coup, peu de choses sur sa vie de femme, si ce n'est qu'elle se marie, sans manifestement prendre le nom de son époux, puisqu'on continue de la connaître sous le nom de Martha Desrumaux, et elle meurt le même jour que lui, mais on ne sait pas trop pourquoi. On ne lui connaît pas d'enfant, ni même plus de détails sur les combats qu'elle a dû porter contre ses supposés frères au sein du syndicalisme et de l'action politique. Hein, ça n'a pas dû être marrant tous les jours. Mais bon, voilà, on poursuivra, on continuera de creuser. Et à ces heures actuelles, largement dédiées à la complainte médiatique anti-mouvement social, l'histoire de Martha est une bonne piqûre de rappel sur l'intérêt de l'action collective des femmes pour la condition de femmes, d'ouvrières, de travailleuses, de salariées et de retraitées.
La chronique badass.
Dodge this.
Alors aujourd'hui dans la chronique badass, donc pour une première de l'année, je me suis dit mais comment démarrer hein ? Est-ce qu'on est dans un thème ou pas ? Est-ce qu'une meuf badass aurait un jour révolutionné le réveillon ? Je ne sais pas. Ou le premier de l'an ? Ou les étrennes ? Ou les sempiternels vœux pour l'année à venir ? Voilà. Puis bon, entre le mal au foie et le mal au crâne post-obligation familiale, je me suis reprise. Hein, je me suis dit pas d'égarement. Et puis j'ai été rattrapée, encore une fois, vous me direz, par l'actualité et son petit air apocalyptique. Non, je ne parle pas des multiples drames de la grève exposés sous toutes les coutures dans les grands médias. Hein. Non, on va s'en remettre, ça, c'est pas la pointe d'apocalypse. Hein. Mais plutôt de la tentation de la guerre qu'une bande de couillus, non barbus et barbus sont en train de nous préparer dans cette région du monde que nous appelons Moyen-Orient, Proche-Orient, on ne sait jamais très bien. Il faut dire ce qui est, hein, quand même, entre la Syrie à feu à sang depuis 8 ans et l'Irak en ruine depuis 30 ans, l'Iran, qui dans un souci de réciprocité, hein, soyons clairs hein, quand même, vient faire comme les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Turquie, la Chine et j'en passe, c'est-à-dire jouer à la guerre loin de chez eux pour garder une mainmise sur le pétrole, hein, on se dit que cette région est maudite quand même. Hein, car en plus, c'est pas tellement nouveau, hein, elle était déjà le terrain de jeu des presque mêmes couillus, hein, surtout les Français et les Britanniques, donc tout au long du 19e siècle, hein, donc pour ceux qui imaginent que... C'est loin, on s'en fout, ça ne nous concerne pas. Eh ben, si, quand même un petit peu. Hein. Mais bon, alors, promis, hein, ces couillus, ces grands leaders du monde, les plus grands, les plus forts, les plus riches, et ceux qui veulent être califes à la place du calife, est-ce qu'il y aurait une once d'espoir hein, bon,
on l'espère.
Voilà, alors je ne vais pas nous déprimer dès janvier. Hein. Alors, pour la touche badass, la touche projet de société, construction de civilisation, je suis allée voir en Assyrie. Et oui, un autre nom pour cette région du monde, ou plutôt le nom qu'on lui donnait 2000 ans avant Jésus-Christ. Et jusqu'au 7e siècle, toujours avant JC, pour les intimes. il faut donc savoir, hein, donc, cette région-là s'appelait l'Assyrie. Et donc, il faut savoir que Samouramat, qui voudrait dire paradis extrême, ou Sémiramis, en grec ancien, oui, parce que ça fait vraiment longtemps hein, que les Européens ont fait des trucs, genre on n'accepte pas les noms tels qu'ils sont, on les traduit, on les change, on les adapte, hein, on est un peu pénible, hein, c'est un peu comme ça. Donc voilà, cette région Assyrie, qui était l'Iran, l'Irak, la Syrie, qui descendait des fois jusqu'à l'Égypte, on a vu naître donc, cette Samouramat, qui était une femme qui a été mariée à un grand roi de l'époque, qui régnait quand même sur un territoire qui, selon l'histoire, va de l'Égypte à l'Iran. Et donc lui, il meurt, hein, pour aller vite, hein, il meurt. Et comme leur fils est trop jeune pour régner, bah, hop, elle en profite. Il y a une fenêtre là, tac. Elle monte sur le trône en 811 avant JC, toujours pour les intimes. Et donc elle monte sur le trône en tant que régente. Donc c'est d'elle dont je veux parler, hein, vous l'avez compris, la chronique. Donc Samouramat, elle a tellement marqué ses contemporains que de nombreux mythes naissent de son histoire. Parce que vous imaginez bien que 800 ans avant Jésus-Christ, tout, ça fait vraiment longtemps, donc on a un petit peu du mal à faire l'histoire quand même. On fait ça avec des trucs qu'on retrouve, des bouts de machin, des bouts de tablettes. Voilà,
entre mythe et réalité.
Voilà. Et donc, ce qu'on sait maintenant, à l'heure actuelle, c'est que les historiens, savants et écrivains antiques parlent d'elle dans leurs ouvrages, mais aussi dans les différentes cours royales qu'ils fréquentent. Donc elle a quand même une certaine renommée. On lui attribue, selon les sources, selon les mythes, un règne de 42 ans, pendant lesquels elle agrandit certes le royaume, hein, donc aussi hein, par des campagnes militaires, hein, évidemment, et impressionne ses adversaires. Mais surtout, elle serait à l'origine de la création de la cité mythique de Babylone, hein, qui connaît son apogée au 6e siècle avant JC, toujours pour les intimes, et qui va diriger un empire, donc cette cité va diriger un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient, et sera une des plus grandes cités du monde. Ces ruines actuelles, encore, on n'a pas encore tout découvert, occupent presque 1000 hectares. Donc, il faut imaginer ce qu'elle a mis en œuvre, hein, cette nana à l'époque. Et donc, elle aurait fait détourner l'Euphrate, qui est un grand fleuve d'Irak, pour contourner la cité et ériger 70 km de remparts. Selon d'autres historiens, elle serait aussi à l'origine de la construction de trésors archéologiques comme le palais royal et le temple de Marduk, une des grandes divinités sumériennes mésopotamiennes, et également des sept merveilles du monde antique, les jardins suspendus de Babylone. Voilà, elle en serait, selon la légende, à l'initiative. Donc elle mène pendant son règne des expéditions jusqu'à l'Indus, elle subjugue l'Égypte où l'oracle Amon lui prédit sa fin par trahison de son fils, patriarcat oblige.
Elle a régné 42 ans en attendant que son fils soit majeur, voilà, en fait.
Donc le fils était majeur depuis un moment.
Lui devait attendre.
Il a attendu trop longtemps, donc à un moment il s'est dit tiens, je vais glisser un truc à l'oreille de Amon.
Mais bon, à l'époque, n'avait pas réformé encore la majorité. Il attendait son règne.
C'est ça. Après, selon les sources, elle a un règne de 5 ans, de 42 ans. Voilà, j'ai un peu choisi aussi la version qui me plaisait. Je fais l'histoire, je ne me gêne pas. Ah ouais. Comme les historiens, j'ai choisi l'angle qui m'intéressait le plus.
Effectivement.
Donc voilà. Et donc le patriarcat oblige, son fils l'aurait trahi. Donc on a peu de notions sur comment elle est morte. Certains disent qu'il l'aurait assassinée. D'autres disent qu'elle est partie en retraite, du coup, en Éthiopie. Donc c'est pour imaginer la taille en fait de l'empire et la mobilité des personnes déjà à cette époque-là, ouais. Entre l'Éthiopie et l'Iran, il y a quand même un bout, hein, on ne voudrait pas dire. Hein. Ou d'autres disent qu'elle se serait jetée sur un bûcher. Bon, bref, c'est un peu compliqué à l'époque de savoir comment.
Oui, il y a des bûchers, hop, la personne arrive là. Et hop,
c'est un truc très féminin, voilà. Comme à l'Inquisition.
Oh, un bûcher, vite, bûcher. Voilà. Genre, personne t'y pousse non plus.
Non, c'est vrai. Voilà. Elle est tombée toute seule, c'est pas moi.
Mais donc difficile de faire le tri dans sa vie entre l'histoire et le mythe, mais toujours est-il que soit les couillus actuels devraient s'en inspirer, ou soit laisser la place et les meufs actuelles prendre le pouvoir pour faire à nouveau de cette région berceau des civilisations un havre où une vie épanouie est possible. Voilà.
Merci Lily. Merci.
Ça fait un petit clin d'œil au prince Charles avec la reine Elisabeth, en fait, hein, qui lui aussi attend depuis des années et des années.
C'est vrai. Et pour l'instant, il ne l'a toujours pas poussé du carrosse.
Non, pas de bûcher.
Mais regarde, ouais, elle esquive les bûchers.
La chronique badass.
Dodge this.
L'émission de ce mois-ci touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment à réécouter ces extraits du Gang des Hystéries et surtout cette fameuse chronique badass. Nous espérons vous retrouver très bientôt, c'est-à-dire le mois prochain, en espérant que d'ici là, nous aurons pu faire une émission en bonne et due forme avec Lily et peut-être avec d'autres invités, qui sait. Et puis sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres. Prenez soin des autres, prenez soin de vous, prenez contact avec les personnes qui pourraient être fragilisées pendant cette période de confinement. Et puis, je vous souhaite à toutes, à tous et aux autres un bon mois et au mois prochain. À bientôt.
Le gang des hystériques.
Le gang.